Chapitre 12. Z sonda de nouveau la rue déserte. Il aurait juré avoir vu quelqu'un. Pourtant, son don lui disait qu'il n'y avait personne de vivant dans les environs. Il n'en restait pas moins immobile, le regard acéré. La brise chaude plaquait sa tunique toute simple contre son corps squelettique et faisait volter ses cheveux blancs déjà portés à l'indiscipline. Mise à sécher au balcon d'un deuxième étage, une robe bleue, la couleur passée à cause du soleil, battait au vent comme un étendard. À l'instar de la ville et de tout ce qu'elle abritait, ce vêtement avait été abandonné depuis longtemps. Avec leurs façades de toutes les couleurs, du rouge ocre au jaune avec une teinte violemment contrastée pour les volets, les bâtiments qui se dressaient des deux côtés de l'étroite rue pavée composaient une sorte de canyon artificiel bariolé. Toutes ces maisons étant légèrement inclinées vers l'avant, une bizarrerie du terrain, on eût dit qu'elles se penchaient volontairement pour mieux observer les passants. Dans cette configuration, et surtout si on ajoutait leur avant-toit encore plus incliné, elles occultaient presque complètement le ciel, laissant à peine filtrer la timide lumière de la fin d'après-midi. Le portail vert d'un jardinet, grand ouvert, grinçait sinistrement sous les assauts de la brise. Z décida qu'il avait été victime d'une illusion d'optique, sans doute un reflet lumineux sur un carreau. Quand il fut sûr de n'avoir vu personne, le vieux sorcier recommença de descendre la rue. Prudent, il rasa les murs et marcha d'un pas délibérément très lent. Depuis que Z avait activé la toile de lumière, faisant un massacre dans leur rang, les soldats de l'ordre n'étaient plus revenus en ville. Mais ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait plus aucun danger. Jagang voulait toujours s'emparer de la cité, et surtout de la forteresse, mais il n'était pas idiot. À coup sûr, il savait que son armée, si grande fût-elle, ne pouvait pas encaisser des pertes à l'infini. Si Z avait l'occasion de frapper deux ou trois fois de plus, cela risquait d'inverser le résultat de la guerre. Jagang combattait les contrées du milieu et d'Ara depuis un an. Au fil de toutes ces batailles, il avait perdu moins d'hommes qu'en Aydindril, en quelques minutes. Il ne prendrait plus le risque de s'exposer aux défenses magiques de la cité. Mais après ce coup dur, il devait rêver d'investir la forteresse du sorcier et de tordre de ses mains le cou de Z. Le vieil homme soupira. Par bonheur, Jagang ignorait un détail. En fouillant frénétiquement la forteresse, Z n'avait pas trouvé d'autre toile de lumière, sinon il aurait déjà réglé son compte à l'ordre impérial. Mais l'intendance ne suivait pas, et il fallait se résigner. Cela dit, Jagang n'était pas au courant, et le respect que lui inspiraient ces toiles de lumière le tenait hors de la ville et loin de la forteresse, un résultat dont il fallait se féliciter. Lors de la bataille, le palais des inquisitrices avait pris de sales coups. Mais le jeu en valait la chandelle, car Adi et Zed n'étaient pas passés loin d'avoir la peau de l'empereur. Les dégâts matériels pouvaient toujours se réparer. En tout cas, Z l'espérait. Il serra un poing, furieux d'avoir raté Jagang de si peu ce jour-là, mais au moins son armée avait souffert. Sans l'étrange jeune femme, le vieux sorcier aurait tué l'empereur. Mais comme il était bizarre de se trouver en face d'une personne insensible à la magie. Bien entendu, il avait entendu parler de ces gens, mais il s'agissait seulement de théories. De vagues références dans d'antiques grimoires pouvaient stimuler l'imagination. Mais voir quelque chose de ses propres yeux, voilà qui était bien différent. Une rencontre bouleversante qui avait encore plus troublé la pauvre Adi. La dame des ossements était aveugle, mais avec l'aide de son don, elle y voyait beaucoup mieux que Z. Ce jour-là, elle n'avait pas pu distinguer la jeune femme qui était là sans y être vraiment. Pour Z, la vision avait été plutôt agréable. Une très jolie femme qui arborait quelques ressemblances avec Darkenral, mais qui en était assez différente pour dégager une saine séduction. À l'évidence, c'était une demi-sœur de Richard. Une multitude de points communs en attestait. Si Z avait pu la convaincre qu'elle se trompait en luttant aux côtés de l'ordre impérial, elle n'aurait pas servi de bouclier humain à Jagang, et l'empereur ne serait plus qu'un petit tas de cendres. Hélas, le vieil homme n'avait pas pu parler à la jeune femme, et il n'était pas parvenu non plus à la tuer. Cela dit, Il savait pertinemment que Tué Jagang n'aurait pas suffi à en finir avec l'ordre impérial. L'empereur n'était qu'une brute qui commandait d'autres brutes, le chef d'une bande de fanatiques convaincus que la mort était la seule forme de rachat pour les péchés de l'humanité. Des fous persuadés que la vie n'avait aucune valeur, sauf si on la sacrifiait sur l'absurde autel d'un altruisme hypocrite. Pour les idéologues de l'ordre, l'humanité était pervertie dès l'origine. Afin que les lendemains chantent, il convenait aujourd'hui d'écraser la vermine humaine sous la botte de la tyrannie. Dans son arrogance, l'ordre impérial s'accrochait au pouvoir et se nourrissait des cadavres des millions d'innocents dont il avait ruiné les vies pourtant saines et productives. Une philosophie qui méprisait à ce point la raison et qui reposait sur des postulats irrationnels avait besoin de la force pour rester en place. Sans des monstres comme Jagang, l'ordre aurait depuis longtemps été rayé de la carte du monde. Mais toute la subtilité résidait dans le « comme ». Si efficace qu'il fût, Jagang n'était pas indispensable. Sans lui, l'ordre survivrait, car ses chefs spirituels n'auraient aucun mal à trouver une nouvelle brute pour le remplacer. Les idées de ces gens étaient dangereuses. Pour vaincre, il fallait leur opposer la vérité, tout simplement, et espérer qu'elle convainque les serviteurs de l'ordre de se détourner de leur maître. Jusque-là, Zed et les siens devraient tenter de ralentir l'avancée de l'ennemi, en lui mettant dans les roues autant de bâtons que possible. Zed regarda prudemment devant lui, humant le vent pour détecter la moindre trace d'un importun. La ville était déserte, mais à plusieurs occasions, des soldats isolés avaient osé descendre des montagnes pour l'explorer. Après les dévastations provoquées par la toile de lumière, la panique s'était répandue comme une traînée de poudre dans le campement de l'ordre. Terrifiés, beaucoup de soudards s'étaient réfugiés dans les collines et les montagnes. Le calme revenu, nombre d'entre eux avaient décidé de déserter. Des milliers de ces insoumis avaient été capturés et exécutés, leurs corps laissés à pourrir au soleil pour bien montrer quel destin guettait ceux qui se détournaient de la cause sacrée de l'ordre. La cause du bien ultime, comme aimait à l'appeler ses chefs. Instruits par l'exemple, la plupart des autres déserteurs avaient réintégré leur unité. Cependant, il restait quelques irréductibles. Après que l'armée de Jagang se fut retirée de la ville, Zed les avait souvent vus errer, seuls ou par petits groupes, dans les rues désertes. En quête de nourriture et de butin, ces brutes auraient tué père et mère pour un morceau de pain. Zed avait perdu le compte des soudards de cet acabit qu'il avait réduit en cendres. Il était presque sûr que tous les déserteurs étaient morts. L'armée de l'ordre impérial était pour l'essentiel composée d'hommes venus de moyennes et de grandes villes, et donc incapables de survivre dans la nature. Leur mission était de submerger l'ennemi, de massacrer les civils, de violer les femmes et de piller les cités. Pour ce qui était de se nourrir, se vêtir et s'équiper, il y avait l'intendance. Ces types étaient des brutes, certes, mais ils avaient besoin qu'on s'occupe d'eux. Dépendant de toute une chaîne d'approvisionnement, ils n'avaient pas une chance de survivre dans les montagnes qui entouraient Aydindril. N'en ayant plus vu depuis assez longtemps, Zed estimait que ces maraudeurs étaient morts de faim, avaient été exécutés ou étaient repartis vers le sud en direction de l'Ancien Monde. Il restait cependant possible que Jagang ait envoyé des tueurs rôder dans les rues d'Aydindril, ou des tueuses. Certaines pouvaient être des sœurs de la lumière, ou, pis encore, des sœurs de l'obscurité. Méfiant de nature, Zed sortait très rarement de la forteresse, et quand il s'y aventurait, il redoublait de prudence. De plus, il détestait voir une si belle cité déserte et lugubre. Presque toute sa vie durant, il avait résidé en Aydindril, et il se souvenait des temps où la forteresse bourdonnait d'activité. Pas comme aux grandes heures de la magie, à une époque depuis longtemps révolue, mais c'était quand même le bon temps. Et l'évoqué faisait flotter un sourire sur ses lèvres. Sa bonne humeur ne dura pas. Désormais, la ville était plus lugubre qu'un cimetière. Plus de passants dans les rues, de voisins qui se parlaient d'un balcon à l'autre, d'acheteurs potentiels qui se pressaient sur la place du marché. Naguère, le vieux sorcier aurait vu des hommes ou des femmes en grande conversation sous presque toutes les portes cochères. Des vendeurs ambulants auraient fait un boucan d'enfer avec leurs charrettes bancales et des dizaines de gosses auraient pris un malin plaisir à courir dans les pattes des adultes. Aujourd'hui, il n'y avait plus rien de tout ça. Au moins, les habitants étaient vivants. C'était toujours ça, même si on les avait exilés très loin de chez eux. Et bien qu'il eût de profondes et nombreuses divergences avec les sœurs de la lumière, Zed savait que Verna, leur dame abbesse, et toutes celles qui avaient échappé à Jagang, veilleraient bien sur les résidents d'Aïdindril contraints à l'exode. Hélas, et comme toujours, il y avait un revers à la médaille. Maintenant qu'il n'avait plus rien d'important à gagner en Aïdindril, à part la forteresse, et tant de choses à y perdre, Jagang avait envoyé son armée à l'est, où attendait ce qu'il restait des troupes des contrées du milieu. Les forces d'Aran se dresseraient contre l'ordre, et Zed savait combien les soldats de Richard étaient redoutables, mais il ne fallait pas se faire d'illusions. Face à une telle horde, il n'avait pas une chance de tenir. Jagang était parti d'Aïdindril afin d'affronter ses troupes. Conscient que l'ordre impérial ne gagnerait pas la guerre en occupant une cité déserte, l'empereur voulait écraser toute résistance. S'il ne restait plus d'individus libres et heureux dans le monde, la vérité ne menacerait plus jamais de réduire à néant les odieux mensonges de l'ordre. Jagang avait traversé toutes les contrées du milieu, coupant littéralement en deux le nouveau monde. Si des forces avaient été laissées en chemin pour occuper les principales cités, le gros de l'armée impériale avançait vers l'est avec Dara pour ultime objectif. La tactique de Jagang était simple, isoler pour mieux écraser. Et elle fonctionnait à merveille. Pourtant, le nouveau monde s'était battu pied à pied, cédant chaque pouce de terrain au prix de terribles combats. Des mois durant, Zed, Kalan et beaucoup de guerriers avaient tout tenté pour arrêter la progression des troupes de Jagang. La gorge serrée, Zed repensa aux batailles féroces, à l'impuissance des défenseurs face au nombre, aux frères d'armes et aux amis qu'il avait vus mourir. Tôt ou tard, les barbares de l'ordre impérial obtiendraient la victoire. Ce n'était plus évitable. Richard et Kalan ne survivraient pas à la défaite finale. Soudain bouleversé, Zed trembla de tous ses membres à l'idée de perdre aussi les deux jeunes gens, la dernière famille qui lui restait. Oui, Kalan et Richard étaient tout pour lui. Submergé par le désespoir, alors qu'il s'était toujours cru capable de résister à tout, le vieil homme fut obligé de s'asseoir sur un banc, devant un magasin de chaussures dont la porte et la vitrine étaient condamnées par des planches. Quand l'ordre en aurait fini avec les Daran, Jagang reviendrait en Aïdindril, et il assiégerait la forteresse. Un jour ou l'autre, tout serait à lui. L'avenir était désormais plongé dans la grisaille d'une vie sans intérêt, sous le joug de l'ordre impérial. Si le monde devait se plier à cette tyrannie, il faudrait des siècles et des siècles pour que renaisse l'étincelle de la liberté. Quand on le forçait à courber l'échine, le bonheur pouvait mettre une éternité pour la relever. Au fond, était-ce si important? Que valait la souffrance de l'humanité face à l'immensité de l'univers et à son éternité? Rien du tout? Certes, mais tout dépendait du point de vue où on se plaçait. Et Zed n'était pas d'humeur à adopter un stoïcisme de dimension cosmique. Il se leva d'un bond, comme s'il avait été assis sur une fourmilière. Bon sang! Était-il le premier sorcier ou un vieillard pleurnichard? Dans sa vie, combien de fois s'était-il cru perdu avant de voir l'ennemi battre en retraite? Allons, Adi et lui avaient encore une chance de trouver dans la forteresse une arme qui renverserait la situation, ou au moins des informations qui pourraient être très utiles à leur cause. Il fallait explorer toutes les salles, étudier tous les grimoires. Tant qu'il y avait de la vie, aucun combat n'était perdu. Et la victoire n'était jamais vraiment hors de portée. En fait, elle était toujours facile à saisir quand on la désirait assez. À condition de ne pas douter, on pouvait surmonter tous les obstacles. Zed se réjouit qu'Adi n'ait pas été là pour le voir déprimé au point de ne plus croire momentanément à la victoire. Non sans raison, elle lui en aurait rebattu les oreilles jusqu'à la fin de ses jours. Fiche très foutre! Il n'était pas un jeune homme sans expérience, et il avait largement les moyens de relever le défi qui se présentait à lui. Et s'il y avait dans le coin des tueurs ou des tueuses, magiques ou non, il les attendait de pied ferme et se réjouissait d'avance des petites surprises qu'il leur avait réservées. Le menton bien droit, un sourire sur les lèvres, Zed s'engagea dans une allée étroite et passa devant une série de jardinets. Naguère plein de poules, d'oies, de canards ou de pigeons, tous les poulaillers étaient vides. Dans les potagers à l'abandon, les mauvaises herbes s'en donnaient à cœur joie, semblant narguer les divers outils abandonnés par leurs propriétaires. Sur les cordes à linge, pas un seul vêtement ne flottait au vent. En chemin, Zed s'arrêta pour ramasser quelques plantes comestibles. Il fit provision de salades, d'épinards, de courgettes, de tomates vertes et de petits pois. Fourrant ses trouvailles dans un sac de toile suspendu à son épaule, le vieil homme continua à explorer les jardins en quête de carrés d'oignons, de blettes, de haricots et de navets. Mais la plupart de ses légumes n'étaient pas encore arrivés à maturité. Par manque de soins, beaucoup de ses cultures périclitaient, mais l'abondance de jardins en Aïdindril assurait qu'Adi et son compagnon ne mourraient pas de faim. Ils auraient même de quoi faire des réserves pour l'hiver. En stockant les tubercules dans les endroits frais de la forteresse et en faisant des conserves avec les légumes plus fragiles, ils auraient assez de nourriture pour un régiment. Soudain, Zed repéra un mûrier niché derrière une clôture entre deux maisons. Le roncier était lesté de magnifiques fruits gorgés de jus délicieux. Non sans regarder devant et derrière lui, au cas où une mauvaise surprise se préparerait, Zed fit une généreuse collecte de fruits qu'il plaça dans un carré de tissu dont il noua les quatre coins avant de le ranger dans son sac tout au-dessus des végétaux plus lourds. Détestant le gaspillage, le vieil homme cueillit autant de mûres que possible et s'en remplit les poches. Le chemin qui menait jusqu'à la forteresse était long et ardu, et une petite pause goûtée ne lui ferait pas de mal. Connaissant son appétit, ça ne l'empêcherait pas de faire honneur au dîner. Adi préparait une délicieuse potée au jambonneau. Sans nul doute, elle serait ravie qu'il apporte des légumes et en ajouterait une partie à son plat. La dame des ossements était une cuisinière de génie. De peur qu'elle attrape la grosse tête, Zed ne l'aurait jamais admis devant elle, bien entendu. Arrivé devant le pont de pierre, le vieux sorcier s'arrêta et leva les yeux sur la route qui serpentait à flanc de montagne. Il n'y avait pas un bruit ni un mouvement, n'était le vent qui faisait onduler et bruire les feuilles des arbres. Pourtant, le vieil homme resta un long moment à sonder le chemin désert. Comme à regret, il s'engagea sur le pont qui enjambait un précipice de plusieurs milliers de pieds au-dessus de la couverture de nuages bas de cette journée tristounette. Bien qu'il eût traversé ce pont des centaines de fois, le vieil homme avait toujours un peu le tournis. En l'absence d'elle, c'était pourtant le seul moyen de gagner la forteresse, à part le passage secret qu'il utilisait enfant. Conscient de leur importance stratégique, Zed avait placé assez de pièges le long du pont et de la route pour qu'aucun intrus ne survive plus de quelques secondes. Ces obstacles étaient infranchissables, même pour une sœur de l'obscurité. Quelques-unes avaient tenté l'aventure et elles avaient payé cette audace de leur vie. Elle se doutait sûrement que le premier sorcier avait disposé des défenses, et elle ne pouvait pas ne pas avoir senti les sorts d'avertissement. Mais Jagang n'avait pas dû leur laisser le choix. Avec lui, c'était toujours « marche ou crève » pour la gloire de l'ordre et, incidemment, pour la sienne. Ayant été prisonnière de l'empereur et soumise à son pouvoir, un court moment par bonheur, Verna avait parlé de son expérience à Zed, avec l'espoir de trouver une autre défense que de jurer fidélité à Richard. Malgré ses efforts, le vieil homme n'avait rien découvert. À ce jour, à part le lien, aucune magie ne pouvait neutraliser le pouvoir de celui qui marche dans les rêves. Durant les grandes guerres, des sorciers bien plus doués que Zed et armés des deux facettes du don n'avaient pas réussi non plus à trouver une parade. Quand une créature comme Jagang s'était emparée de l'esprit de quelqu'un, il n'y avait plus rien à faire. Il fallait lui obéir à n'importe quel prix, y compris la vie. Selon Zed, la mort était un soulagement quand elle permettait d'échapper à l'emprise de Jagang. Mais celui qui marche dans les rêves interdisait le suicide à ses victimes. Les talents des sœurs de la lumière ou de l'obscurité, sans parler d'autres pratiquants de la magie, lui étaient trop précieux pour qu'il les laisse filer ainsi. S'il ne pouvait permettre les suicides en série, l'empereur, en envoyant certaines sœurs à l'assaut de la forteresse, leur offrait un moyen radical d'en finir avec leur esclavage. Bâtie à flanc de montagne, la forteresse du sorcier semblait vouloir écraser le monde de son altier mépris. Alors que ses murs sombres d'une hauteur inimaginable intimidaient la plupart des gens, Zed les regardait comme la façade souriante de sa maison. Quand son regard errait sur les remparts, Il se revoyait les arpenter avec sa chère femme des années plus tôt. Une éternité plus tôt, lui semblait-il. Du haut des tours, il avait souvent contemplé Heidindrill, le cœur serré par sa beauté. À une époque, il avait traversé les ponts et les passerelles pour aller donner des ordres aux soldats qui défendaient les contrées du milieu contre les troupes du père de Darkenral. Ces événements-là aussi semblaient remonter à une autre vie. Aujourd'hui, son petit-fils Richard était le nouveau seigneur Ral et il avait réussi à intégrer les contrées à son empire d'Aran. Zed n'en était toujours pas revenu et il s'émerveillait de tous ces changements. Par la grâce de Richard, le vieil homme était désormais un loyal sujet de l'empire d'Aran. De quoi en rester baba. Avant d'avoir atteint le bout du pont, Zed jeta un coup d'œil dans l'abîme et un mouvement attira son attention. Se penchant pour mieux voir, il aperçut deux gros oiseaux au-dessus de la couche de nuages. Énormes, sombres et menaçants, les deux monstres s'engouffrèrent dans un étroit défilé au milieu de la montagne. Zed n'avait jamais vu de pareils volatiles. Que fallait-il conclure de cet événement? Pour être franc, il n'en savait rien. Levant les yeux vers la forteresse, il vit trois autres oiseaux qui décrivaient de grands cercles très au-dessus des plus grandes tours. Ce devaient être des corbeaux. Ces oiseaux étaient plutôt gros et Zed, sans doute parce qu'il était affamé, devait mal estimer la distance. Bien. S'il s'agissait de corbeaux, il fallait réévaluer l'altitude à laquelle ils volaient. Trop tard, les fichus animaux n'étaient déjà plus en vue. Alors qu'il franchissait le pont-levis, l'âme soudain envahie par la magie de la forteresse, Zed eut le cœur serré de chagrin et de mélancolie. Sa tendre épouse, Erilyn, lui manquait tellement, même si elle avait quitté ce monde depuis longtemps. Et sa fille, la mère de Richard, morte si jeune. Et Richard lui-même, par les esprits du bien, que n'aurait-il pas donné pour être aux côtés de ce sacré gamin? Par bonheur, le petit, lui, avait la chance d'être avec sa femme. Mais qu'il était difficile parfois de penser que ce petit était à présent un homme fait. Aider à l'élever avait été un plaisir, un des meilleurs moments de la vie de Zed. Un long séjour en terre d'Ouest, loin des contrées du milieu, de la magie et des responsabilités. Des années passées auprès d'un enfant curieux de tout, avec des milliers de merveilles à découvrir et à lui montrer. Un sacré bon moment de sa vie, pour sûr. Dès que le premier sorcier, Zedicus Zulzorender, fut entré dans la forteresse, les lampes installées dans les couloirs s'allumèrent docilement sur son passage. En chemin, Zed s'assura que personne n'avait altéré la nature de ses pièges ni ne les avait activés. Rien n'était arrivé, et il en soupira de soulagement. En principe, personne ne pouvait être assez fou pour s'aventurer dans son fief, mais le monde, hélas, ne manquait pas de crétins. Avoir truffé la forteresse de toiles mortelles, en plus des champs de force qui la protégeaient en permanence, ne lui plaisait pas beaucoup, mais il n'avait pas voulu prendre de risques. Alors qu'il passait près d'une longue table, dans un couloir assez large pour être une salle de bal, le vieil homme laissa machinalement courir ses doigts le long du bois patiné par le temps. Enfant, il sacrifiait immanquablement à ce rituel chaque fois qu'il passait par là. Il s'immobilisa soudain, plissa le front, et s'avisa que ce meuble contenait un objet qu'il désirait soudain posséder. Une pelote de ficelle noire laissée ici 3 ans plus tôt, après avoir servi à accrocher les rubans et les autres décorations au support des lampes, tout ça pour la fête des vendanges, comme à l'accoutumée. Dans le tiroir central, comme il s'y attendait, le vieil homme trouva la pelote de ficelle. Il s'en empara et la glissa dans une de ses poches depuis longtemps vidée de sa réserve de mur. D'un support mural près de la table, il décrocha un bâton muni de 6 clochettes. Dans la forteresse, des milliers d'objets similaires servaient à appeler les domestiques. Zed soupira tristement. Les domestiques et leurs familles avaient déserté la forteresse du sorcier depuis des décennies. Mais ils se souvenaient encore des temps où leurs enfants jouaient dans les couloirs. À l'époque, leur rire redonnait vie au fief de la magie abandonné par les sorciers. Zed se promit que des enfants, un jour prochain, courraient de nouveau dans les couloirs. Les fils et les filles de Richard et de Callan. Le vieil homme eut un grand sourire. Par endroits, des ouvertures dans la pierre sombre laissaient entrer la lumière du jour. Mais dans la forteresse, beaucoup de coins étaient très mal éclairés. Zed en chercha un, tendit un morceau de ficelle noire en travers de la porte et y accrocha une des clochettes. Après s'être enfoncé dans le dédale de couloirs obscurs, il s'arrêta et posa à plusieurs endroits d'autres pièges à base de ficelles et de clochettes. Pour s'équiper, il dut récupérer plusieurs autres bâtons destinés à appeler les domestiques. Il y avait des pièges magiques partout, mais qui pouvait savoir de quel pouvoir disposaient les sœurs de l'obscurité? Si elle venait jusqu'ici, elle se méfierait de la magie, pas de piège si élémentaire. De toute façon, prendre des précautions supplémentaires ne pouvait pas nuire à Zed. Le vieux sorcier repéra mentalement l'endroit où il avait placé le dernier piège. Il fallait qu'il prévienne Adi du danger, mais il doutait qu'elle ait besoin de cet avertissement. Avec ses yeux morts, elle y voyait beaucoup mieux que la plupart des gens. Suivant la délicieuse odeur de la potée, Zed se dirigea vers la pièce au mur couvert de livres qu'Adi et lui avaient choisi comme fief. Adi avait accroché des oignons asséchés aux poutres très basses de la salle. Devant la cheminée flanquée de deux confortables fauteuils, face à une fenêtre décorée du symbole des carreaux dans un jeu de cartes, un sofa confortable permettait de contempler de très haut Aïdindril. Le soleil se couchait, abandonnant la ville aux caresses d'une lumière crépusculaire. Aïdindril ressemblait à la capitale qu'elle avait toujours été. À part l'absence de fumée sortant des cheminées, et le silence de mort qu'on entendait jusque dans la forteresse. Zed posa son sac rempli de murs sur une pile de livres qui trônait au milieu d'une table basse derrière le sofa. Il approcha du feu et inspira à fond pour mieux sentir la délicieuse odeur de la potée qui y mijotait.
« Adi, ça sent délicieusement bon. As-tu jeté un coup d'œil dehors aujourd'hui? J'ai vu des oiseaux vraiment bizarres. »
Le vieux sorcier inspira de nouveau à fond.
« Adi, je pense que c'est cuit. »
Il haussa le ton.
« Au moins, nous devrions goûter. Le contrôle de qualité ne peut jamais faire de mal, sais-tu ?»
Le vieil homme jeta un regard par-dessus son épaule.
« Adi, tu m'écoutes ?»
Gagnant la porte, il examina en vain le garde-manger.
« Adi, où es-tu donc ?»
Zed fit la moue, car il détestait qu'on ne lui réponde pas.
« Adi, fichtre et foutre, où te caches-tu ?»
Pas de réponse. Zed se tourna vers le chaudron qui mijotait sur les flammes, puis il ramassa une longue louche posée sur le plan de travail de la cuisine.
« Prends ton temps, cher Adi, » dit-il. « Je vais t'attendre en lisant un peu. »
Satisfait de son mensonge, le vieil homme sourit et se prépara à s'attaquer à la potée.